recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Au fur et à mesure que nous allons descendre dans le temps, nous allons rencontrer des êtres qui vont, disons, se caractériser par quelque chose en moins par rapport à nous. Le premier de ces êtres que nous allons voir s'appelle l'homme de Néandertal.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je vous en préviens d'emblée. En parlant ce matin de l'homme de Néandertal, nous allons sans vergogne bousculer tout ce qui traîne dans nos têtes à son sujet, tout ce que les romans du 19e siècle et les films du 20e y ont installé de douteuses certitudes sur un personnage repoussant, poilu, violent et, comme on l'a dit si longtemps, simiesque. Un vague cousin, en somme, bestial, destiné à nous faire un peu honte, mais heureusement disparu. Or, voici que les investigations et les analyses des préhistoriens contemporains ont modifié grandement cette image, comme en témoigne la belle exposition claire et didactique que propose actuellement le Musée de l'Homme à Paris. Discordance des temps, en l'occurrence, bien plus que concordance. Auguste Comte l'avait fort bien dit jadis, on ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Et cette histoire ne se nourrit pas seulement des découvertes successives, elle reflète toujours, malgré qu'elle en est, les passions et les préjugés des époques successives où elle s'est développée. Voilà bien ce que mon invitée, Marilène Patou-Matisse, qui est directrice de recherche au CNRS et commissaire, co-commissaire de l'exposition que j'ai dite, démontre remarquablement dans ses multiples travaux. Elle y est en quête, selon ses propres termes, d'une autre humanité, celle de Néandertal, sans qu'elle s'abstienne jamais de réfléchir à ce que la nôtre peut projeter sur elle, des prétentions et des angoisses qui lui sont spécifiques.
Un vénérable escalier à la rampe décoré de chrysanthèmes en fer forgé mène à l'illustre laboratoire de paléontologie que dirige au muséum le professeur Camille Arambourg. De degré en degré, comme de monstrueux trophées de chasse, se succèdent des vestiges d'une faune puissante, Macrotherium, Paléotherium, Magnum, Elephas insignis. Et au moment de frapper à la porte du laboratoire, le visiteur, qui sent de plus en plus peser sur soi le poids des millénaires silencieux, peut entrevoir dans la galerie du premier étage les fascinantes structures du Diplodocus et du Triceratops. Le professeur Arambourg se tient, clinicien attentif et calme, au chevet des âges. Sous son regard se range toute la ménagerie du révolu. Il n'est pas question de poumons respirants, de cœur et d'artères battants, rien d'autre à interroger que des ossements, voire de précaires empreintes. Pourtant, il ausculte, il percute, et à travers ces immensités mortes, il écoute bruire la vie antédiluvienne, il surprend le long murmure de l'évolution.
Marilène Patou-Matisse, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un reportage de l'excellent journaliste Fernand Lotte, qui se rend au laboratoire de paléoanthropologie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris le 18 juillet 1953, où il rencontre le professeur Camille Arambourg. C'est un personnage qui a laissé sa trace dans votre discipline.
Ah oui, tout à fait. C'est un grand paléontologue. Et il a mené des fouilles un peu partout, et notamment en Afrique de l'Est. Dans la région où on a découvert la fameuse Lucie.
Lucie qui n'est pas néandertalienne.
Pas du tout. C'est une ancienne, vraiment très très ancien fossile qui a été découvert, mais qui n'appartient pas à notre lignée. Elle est une branche morte, comme on dit chez nous.
C'est le grand anthropologue Maurice Godelier qui disait que tous les passés n'ont pas eu d'avenir.
Exactement.
C'est vrai pour Lucie et c'est vrai aussi pour vos Néandertaliens, sauf naturellement un avenir remarquable dans votre propre discipline.
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu plus complexe maintenant, parce que avec les travaux récents de l'ADN ancien, on a une autre vision aussi de la notion d'espèce, et notamment de cette espèce néandertale, puisque on s'est croisé, les sapiens se sont croisés avec les néandertaliens. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous rapproche, hein, et de ce fait, de ce croisement, on peut s'interroger aussi de est-ce que vraiment les néandertaliens étaient une espèce différente de la nôtre, puisque nous, actuellement, nous avons les eurasiatiques entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant de voir que non seulement au niveau culturel, on se rapproche de plus en plus, sapiens et néandertal, mais aussi peut-être donc au niveau génétique, puisque là, vraiment, nous avons entre les deux les espèces une grande parenté. Donc ça, c'est quand même très intéressant.
Vous acceptez de parler d'espèces, puisque je constate que dans l'exposition actuelle que vous avez organisée, vous construisez votre propos entre la journée d'un néandertalien. Peut-être est-il opportun, au début de cette conversation, que vous rappeliez ce dont il s'agit, en particulier comment s'est organisée, nous le savons maintenant dans la longue distance, l'histoire de Néandertal par rapport à l'histoire de l'Homo sapiens, vous dites aussi l'homme moderne.
Les Néandertaliens apparaissent en Europe il y a à peu près 350 000 ans. Ils vont vivre sur un territoire très vaste, donc toute l'Europe, jusqu'en Sibérie, un petit peu en Ouzbékistan. Et à un certain moment, vers à peu près 120 000 ans, ils vont même aller au Proche-Orient. Et donc, ils vont occuper ce territoire du Proche-Orient. Et quand ils arrivent, il y a déjà des hommes modernes. Contrairement à l'Europe, où ils vont être seuls pendant à peu près 300 000 ans, là, quand ils arrivent au Proche-Orient, il y a déjà nos ancêtres, c'est-à-dire qu'on appelle les proto-cromagnons, les hommes modernes, les sapiens, ils sont déjà là. Et ils vont être sur le même territoire pendant des centaines de milliers d'années. Au Proche-Orient, ce qui est important de savoir, c'est qu'au Proche-Orient, donc quand ils arrivent à peu près il y a 120, 140 000 ans, il y a déjà des hommes qui sont des Homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres directs, qui sont venus d'Afrique, qui ont peuplé à peu près toute l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Et c'est intéressant parce que c'est là que ce territoire commun leur a permis de se croiser. Non seulement ils vont partager les mêmes outils, faire les mêmes activités, mais ils vont également se mélanger. Et c'est eux, les sapiens de cette région-là, qui vont, beaucoup plus tard, vers à peu près 45 000 ans, monter en Europe et peupler l'Europe. Et vont petit à petit, progressivement, remplacer les Néandertaliens. On a souvent eu cette vision de branches très séparées, à la fois culturellement et à la fois justement au niveau de sa morphologie, de ses caractères anatomiques. Et maintenant, on voit que ça a un peu changé grâce à ces analyses ADN, puisqu'il y a ces croisements entre les Néandertaliens et les sapiens. Et pour nous, si vous voulez, ça change aussi la vision. Ça rapproche les Néandertaliens de nous, puisque s'ils se sont croisés, ça veut dire que les différences qui ont été mises entre lui et nous, notamment à partir du 19e et début 20e siècle, ne sont pas aussi grandes qu'on voulait le faire croire, puisque eux, au Proche-Orient, ils se sont vus, ils se sont côtoyés, et ils se sont mélangés, ils se sont croisés.
Ils se sont aimés.
Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, nous et nos prédécesseurs anthropologues avaient une distance qui en réalité n'était pas réelle sur le terrain, si j'ose dire, c'est-à-dire que eux n'ont pas vu cette distance. Donc c'est là qu'on voit que c'est bien quelque chose qui est une projection d'idéologie et de vision, notamment du 19e siècle et des débuts du 20e siècle, sur l'autre différent.
Mais c'est précisément ce que nous allons considérer de près, la projection des générations successives de savants et dans le grand public sur l'homme de Néandertal. Mais il faut peut-être rappeler comment l'homme de Néandertal a surgi. On peut dater précisément à 1856 sa découverte. Pourquoi d'ailleurs s'appelle-t-il ainsi?
Donc c'est en plein 19e siècle. En 1856, donc dans la vallée de Néandertal, près du Seldorf, vallée en allemand, c'est Thal. Donc d'où son nom de Néandertal. Voilà, l'homme de la vallée de Néander. Et donc, et cette découverte est vraiment pour nous est quelque chose de très très important. On est, comme aurait dit la Palice, avant 1859. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte historique tout à fait différent d'aujourd'hui, puisque la vision de l'époque était une vision de toutes les espèces étaient donc créées par Dieu, donc on est dans le créationnisme, et en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ancêtre, donc encore moins pour l'homme, d'ancêtre humain. Donc c'est évident que quand on va découvrir ces ossements, les carriers, hein, ce sont des carriers qui sont en train de prélever des pierres, donc ils creusent, ils trouvent des ossements. D'abord, au départ, ils pensent que c'est des os d'ours des cavernes, parce qu'ils ont beaucoup dans ces régions près du Seldorf, il y avait beaucoup d'ours des cavernes. Et puis après, ils les montrent donc à un spécialiste qui dit non, c'est des restes humains.
Parce que ce serait un très rude coup pour Adam d'expliquer qu'on trouve des humains antérieurs
bien
au
sûr,
paradis terrestre.
Tout à fait. Et donc là, on découvre ces ossements humains. Mais comme on est dans ce contexte de créationnisme, on ne peut pas envisager que ce soit nos ancêtres. Donc c'est forcément un homme moderne, mais comme il est très particulier, avec ses bourrelets, son arrière-crâne très développé, etc., donc il ne nous ressemble pas du tout. Si on peut dire familièrement, il a une sale gueule, et tout de suite, évidemment, on va dire que c'est un crétin, avec des qualificatifs qui sont des plus infériorisants, et notamment donc ce faciès qui ressemble aussi à un faciès un peu simiesque.
Je cite la propre description qui est la vôtre, Marilène Patou-Matisse. Le voilà tel que vous le montrez. Sa capacité cérébrale était importante, mais rapportée à sa masse corporelle, assez élevée, sur ce point, assez proche de la nôtre. Mais le crâne de Néandertal était en forme de bombe, notablement différent de celui d'un homme actuel. Ovale, il était allongé d'avant en arrière et aplati, car la voûte crânienne est basse et les temporaux également bas et longs. À l'arrière, la présence d'un chignon occipital accentuait cet allongement et donnait une forme très ovale à l'arrière-crâne. La face de Néandertal était très volumineuse, à la fois large et haute, avec des pommettes saillantes. Et, ceci qui est important, dans le regard des contemporains, ce qui frappe le plus, c'est son front bas, étroit, plat et fuyant vers l'arrière. Cette face projetée assez fortement en avant et au profil triangulaire est dite en museau. Le nez était saillant, proéminent et grand. Les orbites hautes, arrondies et très vastes, avec juste au-dessus deux gros bourrelets qui forment un relief continu et il n'avait pas de menton. C'est un peu d'ailleurs le personnage, plutôt la dame que vous nous montrez, mais devenue assez élégante dans l'exposition que vous avez organisée.
Oui, tout à fait, oui. Ces caractères sont vraiment les caractères typiques des Néandertaliens. Mais il faut dire aussi que selon les périodes, c'est évident que les plus anciens Néandertaliens n'étaient pas tout à fait les mêmes que les derniers Néandertaliens. Et ces critères sont plus ou moins développés selon ces groupes, ces populations. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à cette époque, il y avait eu, même au début, vers 1829 par exemple, d'autres découvertes de fossiles humains. Mais comme on ne savait pas, comme on n'envisageait absolument pas du tout la possibilité d'avoir des fossiles humains, des ancêtres, donc on avait rangé ces fossiles dans les tiroirs. Et là aussi, c'est important parce que dès qu'il va y avoir cette découverte dans cette vallée de Néander, on va en même temps avoir très très rapidement, en 1859, l'apparition donc du livre de Darwin, et on va ressortir certains fossiles, notamment découverts en Belgique et à Gibraltar, de Néandertaliens. Et tout va un petit peu se précipiter donc autour de ces dates très intéressantes de 1860-1865, où il va y avoir la reconnaissance de la préhistoire et de l'existence d'hommes fossiles.
Darwin, c'est le fameux ouvrage qui va tant compter dans les sensibilités ultérieures, contemporaines et ultérieures, et d'ailleurs dans les inflexions de la science, l'origine des espèces. En quoi est-ce révolutionnaire ?
C'est révolutionnaire. Déjà, on pensait le fixisme, le créationnisme, dire que les espèces, elles sont apparues telles que et n'ont pas évolué, ne se sont pas transformées. Et cette vision a été déjà remise en cause par Lamarck, évidemment, hein, avant Darwin, qui est important parce que Jean-Baptiste de Lamarck va lui proposer le transformisme. Et d'ailleurs, à ce sujet, il va être confronté, là aussi, un professeur du muséum de Paris, d'histoire naturelle, à Cuvier, au grand Cuvier. Et donc, il a vraiment un point important. Et le pauvre Lamarck va avoir du mal à imposer son hypothèse du transformisme, c'est-à-dire que les espèces se transforment au fil du temps. Et là, ça va tout changer, puisque dès qu'on va commencer à admettre que les espèces se transforment, on va se dire, ben alors pour l'espèce humaine, ça va être la même chose, c'est-à-dire que nous avons donc des ancêtres.
Donc il va y avoir une réaction évidemment farouchement hostile de l'Église catholique, notamment au Concile de Cologne, mais auparavant, je voudrais que nous entendions les commentaires de Jean Rostand. Vous savez, Jean Rostand, qui est un biologiste, un naturaliste, comme on disait à l'époque, important, le fils d'Edmond Rostand, c'est un peu un frère de Cyrano de Bergerac, si j'ose dire. Jean Rostand, très, très célèbre en son temps, et homme de radio notamment, qui parle de la sorte le 21 octobre 1949. Le ton est d'époque, mais l'éloquence reste efficace.
Durant des siècles, l'opinion généralement admise quant à l'origine des espèces avait été celle du créationnisme biblique. On croyait que toutes les espèces animales, et à plus forte raison l'espèce humaine, avaient été créées séparément dans l'état même où nous les voyons aujourd'hui. Or voilà que par Darwin, nous apprenons que tous les animaux, y compris nous-mêmes, sont parents les uns des autres et que tous nous descendons par complication graduelle d'organismes primitifs extrêmement simples. L'homme, dès lors, n'apparaît plus comme un être isolé dans la nature vivante. Il fait partie d'un vaste et cohérent ensemble dont il n'est qu'un morceau plus achevé. Il s'insère dans un immense devenir progressif dont il n'exprime qu'un moment privilégié, peut-être transitoire. Un tel changement de perspective, relativement récent, puisqu'il ne date pas même d'un siècle, allait découler d'incalculables conséquences dans tous les domaines de la pensée. Toute chose dorénavant serait vue différemment par l'homme du seul fait qu'il avait dû corriger sa vision de soi-même. Certes, l'idée de l'évolution se heurtera à une puissante résistance. Elle soutiendra de rudes combats, et non seulement contre les naturalistes fidèles au fixisme de Cuvier, mais encore contre les philosophes et les théologiens qui flairent toute la menace que représente pour des préjugés séculaires ce simple écrit d'histoire naturelle. L'importance du phénomène de sélection, mis en évidence par Darwin, n'est plus aujourd'hui contestée par personne. Cette hypothèse a rendu un immense service à la cause transformiste en constituant la première explication plausible de l'évolution, explication qui avait le mérite de ne faire appel à aucun facteur mystérieux et de ne s'appuyer que sur des réalités positives, la concurrence vitale, la variation et l'hérédité. Darwin fit suivre son origine d'un gros ouvrage sur la descendance de l'homme, où il montre comment l'espèce humaine doit être considérée ni plus ni moins que toute autre espèce animale comme un produit naturel de l'évolution. Et c'était de sa part un grand courage qui devait lui attirer bien des injures. On accusa le naturaliste de rabaisser, d'avilir l'humanité en la faisant descendre d'une forme animale qui ne pouvait que ressembler au singe. Nous savons bien cependant que Darwin était dans le vrai. Les paléontologistes nous ont fait connaître des types fossiles, synanthropes, pithécanthropes, qui comblent très correctement le fossé entre la bête et l'homme d'aujourd'hui.
70 ans après, Marie-Hélène Patou-Matisse, vous pensez qu'on dirait les mêmes choses ?
C'est vrai qu'avec les propos de Rostand, on s'approche de ce que l'on pense encore aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des nuances, hein. Il y a les néo-darwiniens, bon, qui a un petit peu modifié, réfléchi à sa théorie. Il y a toujours des progrès, évidemment, il y a des choses. Mais dans les grandes lignes, ça demeure. Et c'était fondamental. C'est-à-dire que c'est vrai que les livres de Darwin, c'est-à-dire aussi bien celui sur la sélection naturelle et l'apparition des espèces, mais aussi celui en 1871, pour nous préhistoriens, il est encore plus fondamental. Parce que c'est là que Darwin va dire que nous avons un ancêtre commun avec les grands singes. On va le caricaturer, il a jamais dit l'homme descend du singe. Mais ça, c'est pour nous important. Ça veut dire qu'on va, à ce moment-là, avec les savants de l'époque, vont partir à la recherche du chaînon manquant.
Le second livre s'appelle « La descendance de l'homme et la sélection sexuelle » 1871.
Voilà, exactement. Et c'est ce livre est vraiment important pour la préhistoire, pour la recherche en anthropologie, en paléanthropologie.
D'où la fureur que j'évoquais notamment de l'Église catholique. Les conciles allemands de Cologne en 1860 s'opposent de front à la théorie de Darwin et déclare « Nos parents ont été créés par Dieu immédiatement. C'est pourquoi nous déclarons tout à fait contraire à l'Écriture sainte et à la foi l'opinion de ceux qui n'ont pas honte d'affirmer que l'homme, quant au corps, est le fruit de la transformation spontanée d'une nature imparfaite en d'autres de plus en plus parfaites jusqu'à la nature humaine actuelle. »
Oui, parce qu'il faut bien voir aussi qu'il y avait la conception du déluge, et le déluge était une période qui a servi au départ aux premiers géologues et aux premiers préhistoriens qui servaient de repères. Et pour expliquer, alors le déluge était en fin de compte quelque chose qui était important comme marqueur dans le temps, puisqu'il y avait avant et il y avait après le déluge. Et ce déluge, bon, bah, l'idée, hein, nous sommes tous les descendants des fils de Noé. Et pour expliquer, parce que Cuvier connaissait les fossiles, c'est quand même le père aussi de l'anatomie comparée, pour expliquer en fin de compte pourquoi il y avait quand même des fossiles, il y avait quand même des espèces qui n'existaient pas, eh ben, il a dit, il y a plusieurs déluges. C'est ce qu'on appelait la théorie des catastrophes. Et pendant un moment, au 19e siècle, on cherchait donc aussi tout ce qui s'était passé dans cette période antédiluvienne. Et il a fallu beaucoup de découvertes pour montrer que ces fossiles humains étaient bien des fossiles d'ancêtres. Et pour ça, il y a eu toute une réflexion sur la présence dans les mêmes endroits, dans les mêmes niveaux archéologiques, géologiques, d'animaux disparus, d'outils taillés par l'homme et de restes humains. Et c'est seulement à partir de ces trois ensembles contemporains qu'on a pu démontrer que oui, l'homme a vécu avec des animaux disparus, donc en fin de compte, il existait des hommes fossiles, on avait des ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important.
Il faudra attendre Jean-Paul II pour que l'Église catholique reconnaisse que le principe du paradis terrestre est en quelque sorte métaphorique et symbolique, et n'est pas une réalité historique. Concrète.
Oui, c'est vrai que ça bouscule beaucoup, puisque vous imaginez, puisque ce paradigme qui était là depuis tellement de siècles, du fait que nous sommes les descendants de ces fils de Noé, et qu'il y avait, rien d'autre, c'était vraiment dans une vision totalement créatrice, c'est un bouleversement total. Et ça a été une bataille qui a été très difficile, qui a commencé au début du 19e, même avant l'apparition de Darwin, par certains donc préhistoriens, enfin qui ne s'appelaient pas encore comme ça à l'époque.
Le mot de préhistoire arrive quand ?
Ben, c'est-à-dire que là, vraiment, on peut dire que c'est dans les années 1860 ça va se mettre en place. En 1863, il y a un colloque où on va vraiment dire, oui, il y a des hommes fossiles, oui, voilà. Et donc, on peut dire un peu le baptême de la préhistoire.
Et ces préhistoriens s'efforcent de montrer quoi ?
Ils essaient justement de montrer qu'en fin de compte, on a trouvé des outils taillés, on a trouvé des fossiles, notamment par exemple de mammouths, et on a trouvé des restes humains, de montrer que tout ça était ensemble, donc qu'en fin de compte, il y avait eu une histoire avant l'histoire, c'est-à-dire une préhistoire. Et ça, c'est quelque chose qui était très important.
Vous évoquez il y a un instant, Marie-Hélène Patou-Mathis, le chaînon manquant. Entre, en somme, le singe et l'homme. C'est devenu une obsession dans cette fin du 19e siècle, à tel point que, comme souvent dans l'histoire des sciences, il y a un canular avec le crâne de Piltdown.
Oui, pour faire avancer les choses, pour montrer qu'il y avait vraiment, cette théorie était vraie, qu'il y avait cet être intermédiaire hein, entre l'homme et le singe. Donc, on a même fait des faux. Hein, on a mis un crâne humain avec une mandibule de singe.
1912.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que on restait toujours aussi sur cette vision de rechercher quand même, bien sûr, ces fossiles humains, c'était des humains, mais quand même pas très humains, c'est-à-dire quand même très proche des singes. Et donc, cette quête du chaînon manquant va être aussi pratiquée, pas seulement pour vérifier les théories de Darwin uniquement et tout ça, pour montrer cet ancêtre commun entre les singes et nous, ça va être aussi devenir un peu une course pour valoriser une nation. C'est-à-dire que pour l'Angleterre, justement, avec ce crâne opidum, parce que de pouvoir montrer que c'est dans notre pays qu'on a le plus ancien homme, c'était important.
Où le nationalisme va-t-il se nicher ?
Exactement. Et ça, je pense que ça a aussi favorisé les missions dans certains pays. On va aller à la quête. Dubois va partir justement sur l'île de Java, va trouver les pithécanthropes. Et donc, il y a cette grande quête de ces ancêtres très lointains et qu'on perçoit surtout comme l'intermédiaire entre les sages et l'homme. Parce qu'on peut pas, là aussi, envisager les hommes avec des cultures différentes, des cultures dites moins civilisées que nous. Donc, soit on est sage, vous voyez, soit on est homme, et cet intermédiaire, c'est un précurseur de l'homme. Voilà, c'est un chaînon manquant, mais c'était pas vraiment encore un homme.
Et comment commence-t-on à l'époque de distinguer l'homme de Néandertal de son cousin, le mot est beaucoup employé, qui est l'Homo sapiens, en sachant que le nombre des Néandertaliens, tel que vous l'analysez, tel que vous l'appréciez, Marilène Patou-Matisse, avec vos confrères, est un nombre très réduit. Il n'y aurait que 70 000 Néandertaliens à l'époque de leur plus grande extension.
Alors c'est vrai que là, c'est des chiffres qui sont donnés par certains collègues, mais je pense qu'il faut se méfier. Je crois qu'il est extrêmement difficile de quantifier ces populations. Ce qu'on peut dire, c'est une démographie faible.
Peut-être ce chiffre d'ailleurs est-il hasardeux, puisqu'au fond, ils ont, nous le disions tout à l'heure, ils ont eu 350 000 ans de longévité.
Oui, les Néandertaliens, donc les plus anciens, apparaissent aux environs de moins 350 000 ans. Et ils vont perdurer jusqu'à moins 35 000 ans.
C'est là qu'on se heurte à la grande question, qui est celle de la disparition des Néandertaliens.
L'hypothèse qui tient la corde, on va dire, c'est quand même le problème de la démographie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit au niveau génétique, vers à peu près moins 50 000 ans, on a une baisse de la diversité génétique. Donc ça veut dire que les groupes sont des petits groupes, c'est des petites populations. Et la pression territoriale, on voit que les Néandertaliens, les petits groupes se déplacent de plus en plus. On a des tout petits campements. Et donc, probablement que cette augmentation de la mobilité, c'est très mauvais justement pour la reproduction. Hein. Plus on est nomade, plus on est mobile, moins on a d'enfants. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'évitement. Ils vont pas aller au conflit. C'est pour ça qu'on n'a pas de traces de massacre. Ils vont s'éviter. Et donc, cette augmentation de la mobilité a fragilisé encore plus des petites populations. Et donc, entraîné une chute démographique a été fatale.
Dans l'exposition que vous avez préparée, Marilène Patou-Matisse, vous donnez à entendre des spécialistes qui ont des interprétations très différentes. Le regard sur ces motivations, qu'est-ce qu'il nous apprend sur notre propre évolution psychologique depuis deux siècles ?
C'est-à-dire que là, quand on a envisagé les différentes hypothèses pour expliquer sa disparition, la première qui est tout de suite venue à l'esprit, c'est de dire, en fin de compte, cette disparition a été causée par l'arrivée des hommes modernes en Europe. Comme si les pauvres Néandertaliens, si j'ose dire, avaient été contraints...
Une guerre,
de disparaître, entre guillemets, c'est une métaphore, par l'arrivée de ces sapiens. Comme si les sapiens les remplaçaient. On a même certains employé le terme de remplacement, de grand remplacement. Et c'est vraiment là, je pense, que c'est une vision qui est extrêmement moderne et qui est extrêmement fausse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'après l'archéologie, d'après les fouilles que l'on mène, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Déjà, premièrement, les Néandertaliens du Proche-Orient, eux aussi, ont disparu. Mais ils ont disparu après s'être mélangés, après s'être croisés avec les hommes modernes qui étaient présents aussi au Proche-Orient.
L'Homo sapiens.
Déjà, premier point. Deuxième point, pourquoi absolument toujours envisager l'action de l'homme ? Parce que ça met, de l'homme moderne, ça met là aussi en valeur, si vous voulez, ses prétendues qualités, notamment que c'est quelqu'un qui, c'est une espèce qui va s'adapter partout, qui est conquérante, entre guillemets, plus forte, donc plus civilisée que celle des Néandertaliens.
Au fond, on regarde tout ça à partir de la grande loi du progrès de l'humanité. C'est cela qui gouverne, qui organise le regard qu'on peut avoir pendant ces décennies passées sur la disparition de Néandertal.
Au XIXe siècle, au moment de découverte des Néandertaliens et des autres fossiles, on est dans ce premier paradigme dont on a parlé, c'est le créationnisme, et aussi, on est dans un autre paradigme qui est très très fort en préhistoire, c'est la vision de l'évolution unilinéaire et progressive de l'humanité.
Téléologique en somme. On arrive vers...
C'est terrible parce qu'en fin de compte, ça veut dire que tout ce qui est avant est moins bien que ce qui est maintenant. Et ça, c'était vraiment poussé à fond en préhistoire, puisque quand on fait une fouille archéologique, on a différents niveaux archéologiques, du plus ancien au plus récent, et évidemment, à l'intérieur, on a des objets lithiques, des outils taillés. On a des restes humains, et donc on a eu tout de suite, par Gabriel de Mortillet, tout de suite une classification qui était déjà orientée. C'est-à-dire de dire, en fin de compte, les plus bas, notamment le moustérien, la culture moustérienne due au néandertalien, elle était en dessous de celle due à l'homo sapiens, par exemple l'aurignacien, suétrien, magdalénien, etc. Donc forcément, elle était moins évoluée, c'était moins dans cette vision de civiliser plus et moins, elle était beaucoup moins que donc les cultures de l'homme moderne.
Ce qui se rattache très très directement à la naissance de ce nouveau paradigme que vous évoquez il y a un instant, qui est lié à la colonisation et au racialisme qu'emporte la colonisation. L'idée des races inférieures et des races supérieures se tricote en somme de très près avec l'évolution de la connaissance ou des préjugés sur cette histoire de l'homme de Néandertal. Est-ce que je me trompe ?
Non, tout à fait. C'est-à-dire que là, nous sommes dans cette période. Évidemment que les premiers préhistoriens vont être imbibés, on peut dire, de ce qui se passe autour d'eux, de la vision du monde. Et on va être dans cette période assez terrible qui va avoir des conséquences monstrueuses pour certains groupes humains. C'est de voir que on va non seulement classer les humains, mais aussi on va mettre les fossiles, les uns par rapport aux autres, et on va les classer en faisant des mesures sur leur crâne notamment, et en comparant ces mesures avec les crânes des chimpanzés, des gorilles, etc., des grands singes. Et on va faire cette classification en mettant donc ceux qui sont plus proches des singes, on va les mettre dans les inférieurs des inférieurs, par exemple les aborigènes d'Australie, par exemple les hottentotes, avec la fameuse Vénus hottentote. Et puis, bien entendu, on va monter, en s'éloignant ces mesures qui s'éloignent des mesures proches faites sur les singes, on va aboutir évidemment tout en haut à l'homme blanc, et l'homme blanc civilisé.
C'est le temps de la phrénologie, mesure des crânes, c'est le temps où le criminologue Lombroso pousse à étudier la criminologie sous cet angle-là. Il y a un docteur Arthur Bordier qui a étudié une série de 36 crânes d'assassins qui ont été guillotinés et conclut que les assassins semblent remonter le courant du progrès, qu'ils seraient des préhistoriques réintroduits subrepticement par l'atavisme dans la civilisation mondiale. Pour évoquer ce climat un peu plus tard, écoutez donc cet extrait des actualités radiophoniques. Je parle de l'éloge de l'Empire colonial, 1937. C'est vraiment un morceau ramassé qui donne bien à connaître l'état d'esprit, qui explique le regard qu'on a jeté à l'époque sur l'homme de Néandertal et plus largement sur l'homme primitif.
À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pathé Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
La préhistoire, Marie-Hélène Patou-Matisse, de ces années 30, autour de la Seconde Guerre mondiale, avant et après, est marquée par cette ambiance coloniale.
On est dans ce schéma qui s'est construit au XIXe siècle, avec cette vision justement des races inférieures et supérieures en fonction de leur apparence physique, mais également culturelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des civilisés et des non-civilisés. Et ces non-civilisés, par exemple les aborigènes d'Australie, ont souvent été pris comme exemple lorsqu'on a abordé les hommes préhistoriques, notamment les hommes de Néandertal, puisqu'on avait des outils qui avaient été découverts dans les sites archéologiques, des outils taillés par Néandertal qui ressemblaient aux outils découverts donc en Australie et qui étaient taillés par des aborigènes. Et tout de suite, on a commencé à faire des comparaisons, à penser que ces hommes non civilisés, ces sauvages, étaient très proches de nos ancêtres, très proches des hommes préhistoriques. Et ça, c'est quelque chose qui a été terrible, puisque en fin de compte, l'homme préhistorique était premier, qui était primitif au sens vrai du terme, puisque ancien, est devenu non civilisé, et le sauvage, entre guillemets, qui était considéré comme non civilisé, évidemment, est devenu premier, est devenu primitif. Mais même premier, c'est, voilà, les arts premiers. Donc, on est dans cette vision qui est une vision, c'est vrai, portée, exprimée, notamment par la colonisation. Et lorsqu'on a commencé à classer au 19e, dans la seconde partie du 19e siècle, les races humaines, on a aussitôt découvert la découverte faite des fossiles. On a classé aussi les fossiles. C'est-à-dire qu'on a classé les noms des plus proche du singe que les Homo sapiens. Quand on a trouvé Cro-Magnon, là c'est pareil, on a dit, ah ben non, c'est Cro-Magnon, il est plus proche de nous.
Cro-Magnon, donc, c'est l'Homo sapiens.
C'est l'Homo sapiens, découvert donc aux Isis Taïak. On les a mis tout de suite proches de nous. Donc sur cette échelle, ils étaient éloignés, évidemment, non seulement des Néandertaliens, des fameux pithécanthropes, qui étaient encore plus archaïques que les Néandertals, mais aussi des noirs, des jaunes, etc. Ils étaient, même ces fossiles étaient au-dessus des races contemporaines. Enfin, voilà, parce qu'à ce moment-là, on parle de race, hein. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose de très important de voir que il valait mieux être un Cro-Magnon qu'un noir contemporain à l'époque.
Ces préjugés ont duré longtemps, puisque je vois que votre collègue Ludovic Slimak, qui est chercheur au CNRS, c'est une citation empruntée à un article de Pierre Barthélémy dans Le Monde, évoque le propos d'un autre spécialiste, le paléoanthropologue américain Richard Klein de Stanford, comment il avait récemment mis un crâne néandertalien sur une de ses diapositives et il avait dit « Si en montant dans un avion je voyais que le pilote a cette tête-là, je ne sais pas pour vous, mais moi je redescendrai de l'avion. » Et il cite un autre de ses collègues, russe celui-là, Pavel Pavlov, dont le jugement sur les Néandertaliens se résumait à un propos lapidaire, « Ils n'ont pas d'âme ».
Ben voilà, je crois que là tout est dit. Si vous voulez, les études, les analyses, les nouvelles méthodes d'investigation ont permis de mettre en évidence les grandes capacités, notamment d'artisans des Néandertaliens, c'est-à-dire les outils, la façon de vivre, le quotidien. Donc tous ces comportements de subsistance, maintenant je pense que tout le monde est assez unanime. Mais il reste pour beaucoup une différence fondamentale qui se situe plus dans de l'ordre des pensées symboliques, des pensées métaphysiques. Et là nous avons encore des collègues qui ont cette vision. Pour eux, ils n'avaient pas atteint le degré, si je peux parler en ces termes-là, de développement de ces pensées symboliques, de ces pensées métaphysiques. Ils sont encore inférieurs aux Homo sapiens, aussi bien fossiles que, bien sûr, inférieurs à nous. Donc, on a encore ces visions. Alors que maintenant, il y a beaucoup de découvertes qui montrent que, justement, ils avaient développé des pensées symboliques et métaphysiques qu'ils enterraient leurs morts, mais pas seulement. Ils avaient aussi la pratique du cannibalisme, qui est quand même un comportement, pour moi, typiquement humain.
Moderne.
Voilà, moderne. Et en plus, on voit également qu'ils commençaient à avoir des relations tout à fait particulières avec certains animaux, notamment les oiseaux, dont ils récupéraient les plumes et les cerfs chez les rapaces diurnes. Donc, vous voyez, des choses qui sont en relation plus avec le domaine de l'esthétique, de la parure, mais aussi des domaines symboliques, par exemple la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, où des Néandertaliens ont pénétré dans cette grotte très loin de l'entrée, donc ils ont pénétré dans ce monde souterrain qu'on pensait n'avoir été conquis que par l'homme moderne, notamment pour les grottes de Chauvet, de Lascaux, etc. Pas du tout. Ils sont rentrés il y a environ 175 000 ans. Donc, vous voyez, en plus des Néandertaliens, pas les derniers, sont rentrés dans cette grotte, dans le noir, avec bien sûr des torches, et ils ont pénétré pour faire quelque chose d'incroyable, casser des stalagmites, prendre les fragments et les disposer en deux cercles et allumer quelques feux. C'est tout. C'est-à-dire que là, ils ont réalisé quelque chose qui nous échappe totalement. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Est-ce que c'est un rituel? On ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais. En tout cas, ce n'est pas un habitat. Ils sont venus là dans des intentions autre que simplement de subsistance.
Vous les aimez beaucoup, vos Néandertaliens, Marie-Hélène Patou-Matisse, on le sent bien. Pendant toute cette période, en même temps qu'avance la connaissance, la compréhension, y compris au deuxième degré, la compréhension du fait que c'est notre civilisation qui change notre regard sur cette période ancienne, La littérature populaire, les films continuent de charrier les stéréotypes, les clichés ordinaires. On le voit bien dans cette chanson, qui est de 1990, Néandertal, interprétée par le groupe Les Loups.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Je n'ai peur de rien. J'ai une grosse massue. Avec ça, je leur tape dessus. Car j'ai toujours faim. Je suis l'homme des cavernes. Je vis à l'aube des temps de notre ère. Je cavale dans les plaines à l'époque glaciaire. Et je m'exprime tant bien que mal en Néandertal. Je frotte
Néandertal, oui. Marilyn Patou-Mathis, vous connaissiez cette chanson avant ce matin?
Ben écoutez, non, je viens de la découvrir. Si je l'avais su, je l'aurais connue avant, je l'aurais mis dans l'exposition parce qu'elle est vraiment formidable. Parce qu'alors là, je crois qu'on a tous les clichés. Hein. Tous les clichés qui sont là depuis un long moment, puisqu'ils apparaissent déjà au 19e siècle avec les magazines illustrés. Donc on a la massue, donc voilà, ça c'est typique. La peau de bête. Hein, c'est forcément, hop, on jette une peau de bête sur soi. La caverne, hein, c'est l'homme des cavernes, alors qu'on sait que, par exemple, les préhistoriques, mais les Néandertaliens aussi, évidemment, habitaient pas seulement dans les grottes, et c'est pas à l'intérieur des grottes, mais c'est devant. Ils habitaient aussi, ils faisaient des campements de plein air. Hein. Donc là, on a vraiment ces clichés, et aussi ce côté sauvage, dans le sens, voilà, ils sont virils. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que les hommes préhistoriques, ils doivent chasser des animaux extrêmement puissants et qui doivent aussi combattre des animaux féroces, hein, parce qu'à l'époque, il y a le lion des cavernes, il y a la hyène des cavernes. Donc, toujours cet aspect d'homme un peu rustre, très fort, viril, voilà. Il ne manque plus que la femme tirée par les cheveux.
Hein. En fait, pas de massue, d'après vous. Beaucoup moins de violence qu'on ne peut croire. Grand débat, effectivement, entre ceux qui pensent que la violence est intrinsèque à l'homme, et d'autres qui pensent que ça n'est pas vrai. D'un côté, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, et de l'autre, Jean-Jacques Rousseau, pour faire bref.
Oui, on est tout à fait encore maintenant, d'ailleurs, dans ces deux écoles. Hein. C'est-à-dire que ça se poursuit encore aujourd'hui.
Alors, l'homme de Néandertal, vous le situez où ?
L'étude que j'ai menée sur ces histoires de violence archaïque, intrinsèque à l'homme, etc., j'ai recherché dans les documents archéologiques, j'ai réétudié le matériel, et en fin de compte, à part quelques traces de conflits interpersonnels, hein, entre deux individus, parce que c'est pas des bisounours, hein, faut pas non plus en faire là aussi une figure mythique, on a cette caricature des hommes préhistoriques et des Néandertaliens d'hommes violents, alors que au niveau archéologique, rien ne le montre. C'est-à-dire qu'on n'a pas des lieux de massacre, on n'a pas plusieurs corps en même temps à ces périodes-là.
Plus de cette massue qu'on voit sur toutes les peintures du 19e siècle.
Dans l'outillage, dans l'armement des Néandertaliens, on n'a pas de ces fameuses massues, de ce fameux gourdin. Peut-être, probablement, ils pouvaient utiliser des bâtons comme ça pour assommer des lapins ou autre. Mais c'est vraiment dans l'imaginaire. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une construction mentale de l'époque. Il fallait absolument faire de nos ancêtres des hommes inférieurs à nous. C'était très, très important pour valoriser notre civilisation. Pour valoriser cette notion de progrès, il fallait absolument que ce qui était avant était forcément quelque chose de beaucoup moins bien, aussi bien au niveau technologique, au niveau mœurs, qu'au niveau comportement. Pour se valoriser, on va dévaloriser l'autre. Et l'autre, là, c'est le préhistorique, et notamment Néandertal. Et c'est ça qui est important. On est toujours dans ce rapport. Alors, au départ, on va dire, oh là là, c'est un singe. Bon, après, on va dire, non, il est quand même pas vraiment poilu, tout ça. Bon. Après, on va dire, c'est un inférieur, il sait rien faire. Voilà, ses outils, ses frustres et tout. Pas du tout. Après, on va montrer que ça a changé. Donc, on va dire, oui, mais il a pas de pensée symbolique. Oui, mais il sait pas faire de l'art. Donc, on a toujours cherché à l'inférioriser. Il a pas de langage. Alors, pendant un moment, c'était ça. Il a pas de langage articulé. Bref.
Vous êtes persuadé, au contraire, qu'il avait un langage articulé.
Oui, et maintenant, je pense que toutes les données, il y a quand même un certain consensus sur le fait qu'il y a un langage articulé. Et je pense que c'était pas pour l'accabler. Mais c'était en infériorisant l'autre, cet autre qui était le Néandertal, on valorisait Cro-Magnon, on valorisait les sapiens que nos ancêtres directs. Donc il y a toujours eu ça. Pendant un moment même, il n'était plus chasseur, c'était les charognards. Des collègues américains dans les années 80 avaient décrété que tout ce qui n'était, enfin tous les hommes avant l'homme moderne, avant Cro-Magnon, étaient tous des charognards. Pas des chasseurs, parce que c'est-à-dire manger dans les charognes, c'est-à-dire ne pas chasser et simplement récupérer les carcasses mortes. Bon, c'est pas la même image qu'un chasseur viril. Donc, on a toujours cherché à le dévaloriser, à l'inférioriser, mais je pense que c'est surtout par rapport à nous. C'est-à-dire que c'était pour valoriser aussi notre civilisation, notre société.
Tous les films, d'ailleurs, contemporains, préhistoriques, montrent des hommes qui n'ont pas de langage.
Oui, voilà, on fait des brrrr comme ça, des
bruits. Oui, comment
des brrrr. Mais c'est vrai que c'était aussi... Les gens, la plupart, considèrent l'être humain comme singulier, notamment par le fait qu'il ait un langage articulé, par exemple, ça c'est très important, par le fait qu'il puisse être un artiste. Et donc, si on ne veut pas percevoir nos ancêtres comme aussi évolués, ben on va leur dire non, ils en sont dénués.
Il y a aussi l'influence de Sigmund Freud sur la horde primitive que l'on rejette assez largement maintenant, n'est-ce pas ?
Là, ça a été très, très, à mon avis, très fort aussi. C'est la vision, justement, de ce côté, de ce primitif intérieur, hein, de cette qui aurait, justement, ce côté noir de l'homme qui, en fin de compte, à cause de ce primitif intérieur, on aurait tendance à cette violence qui remonterait dans la nuit des temps, puisqu'il a utilisé un terme qu'avait employé Darwin, de la horde primitive, pour parler des populations à l'époque et la façon dont ils vivaient au niveau des clans, des petits clans. Et lui, il en a fait quelque chose d'assez fort qui, là aussi, a profondément marqué, à mon avis, la vision que nous avons des hommes préhistoriques, c'est qu'il a construit tout son complexe d'Oedipe à partir de ça. C'est-à-dire sur le fait qu'au départ, il y avait une horde primitive, que le père prenait pour lui toutes les femmes et ne laissait rien aux fils, et qu'à un moment donné, les fils se rebellent et tuent le père pour prendre les femmes. Donc, on est vraiment dans de ces origines violentes, de ces origines sanglantes de notre civilisation.
Et dans le même temps, il apparaît parfois que dans la période la plus récente, il y a une sorte de renversement. On est en passe de faire de l'homme des Néandertals, auquel nous consacrons cette émission, reflété dans le regard des générations successives, on est en passe de faire de lui quelqu'un comme un écologiste avant la lettre. Et tout à coup, il deviendrait presque supérieur à nous, annonçant des lendemains moins rudes, en particulier à l'égard de la nature.
C'est vrai que c'est quelque chose en ce moment qui me choque tout autant que la position prise par beaucoup de savants au 19e et au début du 20e siècle. C'est-à-dire que il ne faut pas continuer à vouloir hiérarchiser les hommes, les sociétés. Je pense que autant la classification pour nous scientifiques est importante, il faut savoir nommer et dénommer, mais la hiérarchisation tant des faits que des hommes est, à mon avis, quelque chose qu'il faut absolument mettre de côté, parce qu'on va retomber dans ce piège. Les Néandertaliens sont différents, point. Il n'est pas nécessaire de dire qu'ils sont inférieurs ou supérieurs. Et c'est tout aussi ridicule de dire qu'ils sont supérieurs à nous. Pourquoi on dit ça en ce moment ? On dit ça en ce moment, je pense, enfin, certains disent ça, parce qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être de ce qu'est devenu l'Homo sapiens. Beaucoup de gens voient dans l'évolution de l'homme moderne, en tout cas actuellement, ils voient un être qui est un être destructeur. C'est-à-dire que non seulement il détruit la planète, il s'entretue, l'espèce s'entretue, hein. Il y a des guerres, il y a toujours de la violence et des guerres. Et donc, ils n'aiment pas ce que l'Homo sapiens est devenu. Du coup, ils ont une espèce d'image tout aussi faussée que celle des savants du 19e siècle, en pensant que Néandertal était écologiste. Ça n'a pas de sens, je veux dire, d'employer ce terme, puisqu'il était dans la nature, il vivait de la nature dans la nature, et c'était intrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sa part une réflexion de dire « oh là là, il faut que je préserve la nature », pas du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait ce respect qu'on voit d'ailleurs se poursuivre dans les sociétés traditionnelles, de ce rapport à la nature qui est très différent évidemment du rapport que nous actuellement en milieu urbain nous avons à la nature.
Il faut rejoindre la sagesse de Claude Lévi-Strauss qui dès 1962 écrivait dans La Pensée Sauvage, son livre le fameux La Pensée Sauvage, il n'y a pas de civilisation primitive entre guillemets, ni de civilisation évoluée entre guillemets, il n'y a que des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et identiques. Mais on ne peut pas empêcher certains contemporains d'observer que l'homme de Néandertal a vécu 300 000 ans et du coup de se demander combien de temps nous autres nous vivrons.
L'homme, la singularité de l'humain, ce n'est pas non plus uniquement l'aspect matériel. C'est-à-dire que ce n'est pas ses productions matérielles qui font l'humain. Et on a beaucoup classé, beaucoup hiérarchisé justement les populations humaines en fonction de ces productions. J'ai eu la chance de vivre au Kalahari avec les saints du Kalahari, les Bushmen.
Au Kalahari, c'est tout.
Au Kalahari, au Botswana, donc pendant à peu près 3 mois. Et j'ai constaté que ces hommes qui sont des chasseurs-cueilleurs traditionnels, qui vivent de chasse et de cueillette, étaient tellement dans la modernité de l'humain pour moi, par leur compte, par la réalisation de leur savoir et leur savoir-faire propre, évidemment, à leur type de société, leurs comportements sociaux, la richesse de leur compte, etc. Que si on restait sur ce qu'on a fait pendant longtemps pour classer justement les humains, les races, comme on disait à l'époque, et les fossiles, eh ben on dirait ces hommes ne sont pas civilisés, ces humains, ces groupes ne sont pas civilisés. Alors qu'en réalité, ils sont extrêmement civilisés par plein d'autres facteurs, production, notamment de l'imaginaire, que de ces productions matérielles qui ont fait ces classifications terrifiantes.
Sur cet aspect des choses, il y a un homme qui vous rejoint, c'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a visité le 12 septembre 2010 la grotte de Lascaux. Peut-être ne retrouve-t-il pas tout à fait, vous en jugerez, les distinctions nécessaires entre l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal, dont nous venons longuement de parler. Mais enfin, j'ai pensé que nous pouvions, du point de vue des réalités, peut-être, de l'histoire des images, de ces réalités, trouver intérêt à l'entendre.
Je voudrais également dire à tous les représentants de la paléo-anthropologie combien je les admire, combien avec le ministre de la Culture, cher Frédéric Mitterrand, nous les soutiendrons, parce que la paléo-anthropologie, les pionniers sont français, la tradition n'a jamais perdu sa vivacité. De Jacques Boucher, l'inventeur de la préhistoire, qui a le premier défendu cette idée que l'homme existait bien avant le déluge et qu'il avait même vécu à l'époque du mammouth. Enfin, on voit déjà là, hein, au milieu du 19e siècle, aller oser affirmer ça, bon, les bûchers n'existaient plus, en tout cas moins, en tout cas, je veux dire au sens réel, mais on voit très bien que quelques siècles plus tôt, ça aurait pu mal tourner, hein. C'est une affaire. L'abbé Breuil, dont j'ai vu une photo, présent lors de la découverte de Lascaux, notre cher Yves Coppens, dont on voit quand même, avec cette intelligence brillante, ce physique avenant qui était parfaitement adapté dans la grotte, là, on imagine parfaitement, j'ai énormément d'affection pour Yves, mais on voit parfaitement la communauté d'esprit fantastique, et puis ces villages de la Vézère que nous avons survolés et traversés, qui sont d'une beauté stupéfiante, je veux dire, à ce département de la Dordogne, à cette région Périgord, que c'est vraiment... On comprend, au fond, pourquoi, depuis l'origine, les gens ont voulu vivre ici. Mais au fond, tout ça est très compliqué, il faut être très savant. Pas du tout. le brave néandertalien avait parfaitement compris qu'ici c'était plus tempéré qu'ailleurs, qu'il devait y avoir du gibier, que c'était beau et qu'il faisait bon vivre.
En somme, le bon néandertalien, c'est plus simple que l'on croyait, je ne suis pas sûr, Marie-Hélène Patou-Matisse, que ceux qui nous auront écoutés ce matin seront persuadés que c'était si simple. Comment réagissez-vous à ce propos final?
C'est-à-dire que là, c'est assez intéressant parce que on est vraiment dans une vision un peu d'un âge d'or de la préhistoire. Vous savez, il y a toujours eu ces deux visions. On en a parlé longuement, la vision des eaux cruelles et la vision de l'âge d'or.
Avec une empathie de ces groupes et non plus
l'hostilité. Voilà, avec une empathie. Et là, c'est intéressant parce que le bon vivre, moi, je crois que c'est assez juste sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ces périodes, on a aussi une vision qu'il faut, à mon avis, négative, qu'il faut enlever. C'est qu'on a l'impression que les êtres humains étaient toujours dans une misère totale, affamés, avec peu de temps, toujours à chercher de la viande. Enfin, de la nourriture. Alors, en réalité, ces sociétés dites de chasseurs-cueilleurs sont des sociétés que j'oserais même qualifier d'abondance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de temps libre. Ces petits groupes d'une trentaine à 50 individus pratiquaient la chasse, la cueillette, se déplaçaient deux fois dans l'année en fonction justement des ressources alimentaires. Et lorsqu'ils avaient tué un gibier, le gibier à l'époque, c'est bison, mammouth, vous voyez, des gros animaux, ils partageaient cet animal sur plusieurs jours. Et donc, il y avait un certain temps libre. Et peut-être que justement, après les Cro-Magnons, notamment ceux qui n'ont pas Lascaux, puisque ce sont des Magdaléniens, donc des Homo sapiens, avaient peut-être ce temps libre, leur avait permis d'aller justement s'exprimer dans ces grottes. C'était pas la misère. C'est-à-dire que les hommes de Néandertal, leur vie, c'est pas la survie, c'est de la vie. Et là aussi, les mots ont un sens. Souvent, on dit les hommes préhistoriques survivaient. Non, ils vivaient. Et parfois, je suis persuadée que dans certains moments, ils ont bien vécu, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'abondance de nourriture, du temps libre pour faire je ne sais pas. Alors là, c'est de la science-fiction, mais toujours est-il que ça, c'est une notion aussi qu'il faut bien avoir en tête. On n'est pas du tout dans cette vision misérabiliste de l'homme préhistorique.
Donc on comprend, Marie-Hélène Patou-Matisse, que vous avez été la plume du président Sarkozy lors de son propos, lors de son propos à la grotte de Lascaux. Merci de cet aveu. Je cite vos ouvrages principaux, on aura une bibliographie plus complète sur notre site naturellement. Le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental, paru chez Odile Jacob en 2011. Un ouvrage qui est une sorte de dictionnaire très précieux qui s'appelle Néandertal de A à Z, chez Alary Édition, paru en 2018. Vous avez publié également chez Odile Jacob une préhistoire de la violence et de la guerre. Et vous êtes avec Pascal Depape, votre co-commissaire, naturellement l'auteur, l'organisatrice du catalogue de l'exposition Néandertal, dont j'ai beaucoup parlé, au Musée de l'Homme, qui est actuellement et jusqu'à la fin de l'année ouverte à qui voudra aller la voir. Vous allez très prochainement republier en collection de poche et Tempus un ouvrage qui précisément évoque la consommation de la viande, peut-être aussi le cannibalisme, mangeur de viande de la préhistoire à nos jours. Vous pourrez, vous le savez aussi, écouter, réécouter, podcaster cette émission sur le très long terme. Nous avons parlé de très long terme en évoquant l'homme de Néandertal. Samedi prochain, nous évoquerons une toute autre question, les médecins devant la mort, à propos bien sûr de tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à notre civilisation. Et je recevrai Anne Carole pour en traiter. Lundi prochain, lundi matin à 9h, vous pourrez retrouver la Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin qui consacrera cette semaine à l'histoire de l'Antiquité. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Audrey Guélil, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.